Vous écoutez le petit guide de la balado, épisode 4. Bonjour à tous, Boris Pro micro, accompagné de François Larivière. Salut François.
Salut tout le monde, ça va?
Bien, super, oh. Toi, ça va bien?
Ça va. Je ne souhaitais à tout le monde si ça allait bien, mais évidemment, eux autres, je pense pas qu'ils peuvent me répondre. Mais
il toi, ça va, Boris? Il fait beau dehors, oui, vraiment très content d'être avec toi dans ton studio maison à Aylmer, Québec, pour ce nouvel épisode du petit guide du podcast. En fait, je dis petit guide de la balado, petit guide du podcast, c'est un synonyme.
Ça revient,
mais aujourd'hui, on va pouvoir demander... balado ou podcast à notre tout premier invité, François.
Oui, un gars que moi et toi, on connaît très bien, Boris, Olivier Charbonneau.
Salut, Olivier.
Salut.
Olivier Charbonneau, qui est journaliste à Cogeco, ici en Outaouais, ex-collègue de travail chez Québecor et aussi ami, je dois dire. Mm-hmm. Comment ça va, Olivier?
Ça va super bien. Je suis vraiment ravi parce que j'adore... le podcast, je vais mettre d'entrée de jeu, je vais m'affirmer, pour moi, c'est podcast de loin. En fait, enlève la chicane entre le ou la podcast, donc...
La balado.
La ou la balado, oui.
La balado,
moi, dans ma tête,
podcast.
C'est podcast, toujours. Puis c'est aussi parce que j'écoute beaucoup de balado en anglais. Je vais essayer de dire balado, ça va être mon objectif aujourd'hui,
ben,
balado. J'écoute beaucoup de balado américain, donc il n'y a même pas la question, c'est podcast. Puis les applications, de plus en plus, on utilise, même quand sont traduits, on utilise le mot podcast, les grosses applications, là, les gros players de ce monde qui... Google Podcast ou Apple Podcast, bref.
Ben écoute, c'est assez clair, dans le petit guide, on est des gars de radio qui jasent de balado, qui est comme un peu notre passion. Puis justement, notre sujet d'aujourd'hui, c'est une entreprise, un empire québécois qui a lancé Cube Radio il y a combien de temps? Un an maintenant, un peu plus, en 2018. Et eux autres, justement, ils utilisent le mot balado et ça m'a un peu surpris parce que ça avait été jugé un petit peu radio-canadien. Je me souviens, balado, diffusion, le balado. Mais bon, Cube Radio, le privé qui a repris à son compte ce mot-là. Donc, on se permet de l'utiliser quand même. Et Oli, je suis vraiment content que tu sois là pour cet épisode parce que t'es toi-même au bureau du sac de chips, comme tu écrivais pour le sac de chips,
ouais.
Au moment où Cube Radio est sorti. Et toi, tu l'as un peu vu de l'intérieur. En fait, tu l'as pas vu parce que c'était secret.
Ouais, c'était un secret. Mais secret de polichinelle, en fait. Tout le monde finissait par le savoir. Il y avait parce que le bureau... Donc, c'était sous la division numérique de Québecor, du même titre que le sac de chips. Et à un moment donné, on a vu des nouveaux collègues arriver, on se posait des questions. Puis on s'entend que le milieu de la radio, le milieu des médias est quand même assez petit. On sait les compétences, mm-hmm. les qualités de chacun. Puis on a vite compris que Québecor voulait lancer sa web radio. Je ne savais pas au départ si on voulait lancer vraiment une plateforme de podcast. Je ne sais pas encore à ce jour si on veut lancer une plateforme de podcast ou une web radio. Mais ça s'est su assez rapidement. Mais les secrets, par contre, le secret, c'était quel serait le contenu. Donc, on ne le savait vraiment pas. J'ai tenté à plusieurs reprises, puis je pense qu'on est ensemble,
oui.
Boris, d'essayer de se faire inviter ou du moins pitcher des concepts,
oui.
de podcast. Et à tout coup, il y avait vraiment une fin de non-recevoir. La division était marquée. On était vraiment en développement de ce côté-là. Et lorsque...
J'ai une anecdote, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais moi, la première fois que tu m'as parlé que ça s'en venait, c'était au Festival Transistor de 2018,
ah oui,
dans le fond.
Je m'en rappelais pas à ce point-là.
Tu avais rencontré quelqu'un qui te l'a comme révélé, quelqu'un de chez
Québecor.
Ouais, là, tu m'as dit, tu sais pas quoi, ils vont lancer une radio web podcast de Québecor. Donc, ça nous avait bien surpris parce qu'on était dans la boîte, effectivement, mais c'était très, très, très secret de tous. Et puis là, ben, c'est lancé officiellement. Puis
ils ont mis beaucoup de ressources, hein. Excessivement ressources. Moi, malheureusement, mon aventure chez Québecor s'est terminée quelques jours avant le début de
oui.
Cube Radio. Mais on voyait déjà les ressources. Là, c'était plus secret. Ça faisait une couple de semaines que tous les employés le savaient. On avait déjà même identifié un local.
Pour le Archambault à Montréal, ouais. Coin Sainte-Catherine et Berry à peu près. Là.
Donc les studios allaient être là. On nous avait déjà présenté au Sac de Chip que plusieurs acteurs, plusieurs producteurs de contenu seraient appelés à participer à ces émissions-là, peut-être à pitcher aussi des concepts d'émissions. Donc c'est et on nous a vraiment invoqué que c'était une des priorités. Et j'ai pu le voir après parce que je veux pas, j'ai continué à avoir des amis à l'intérieur de Québécois, puis pas juste des amis dans la division Sac de Chip, qui est la division plus rattachée du numérique au journal imprimé, au Journal de Montréal. Mais j'ai des amis aussi dans tout le volet publicité et on a vraiment mis des ressources. On a dégagé certaines ressources des médias traditionnels qui s'occupaient du marketing ou de la publicité pour les mettre à Cube. Donc on a investi beaucoup là-dedans. Et ça, et on a aussi les stars de Québécois sont venus, sont débarqués sur Cube Radio assez rapidement.
Est-ce que tu as remarqué la publicité croisée dans le Journal de Montréal? Aller écouter Richard Martineau sur Cube Radio, aller écouter l'un et l'autre. C'est vraiment la convergence, le modèle de Québécois qui a fait son succès aussi, mais qu'on voit maintenant sur cette plateforme.
Mais pas juste ça, si vous vous rappelez, à un moment donné, Mario Dumont, vraiment arrivé de nulle part, annonce son départ de Cogeco. Il faisait la pluie et le beau temps avec Paul Arcand, pas Paul Arcand, Pierre Arcand, je me trompe entre les deux frères, bref, Paul Arcand le matin, et donc et Luc Lavoie, la même chose, on a demandé
Richard Martineau,
on a demandé à des stars, à des vedettes, à des piliers des médias québécois de choisir leur camp entre Québécois et les autres médias.
Luc Lavoie n'a pas choisi Cube Radio,
c'est ça, n'a pas choisi, mais ça s'est fait plusieurs mois en avance, là, je veux dire, ça... Cube Radio a vraiment lancé son plein essor avec tout son contenu en septembre, si je me souviens bien. Et ça faisait déjà...
2018.
Donc, ça fait bientôt 6 mois.
Non, plus que ça, mais ça va faire 1 an en septembre, autrement dit.
Ouais, 9 mois, bref. Ouais. Mais ça faisait déjà 6 mois avant, peut-être, qu'on avait demandé aux gens de choisir leur camp. Et je sais que... Parce que j'ai aussi une autre expérience... avec Transistor, je sais qu'ils cherchaient beaucoup de contenu parce qu'on savait pas nécessairement comment faire du podcast, puis on voulait, dès qu'on lance la plateforme, avoir un contenu sur écoute, sur demande. Et donc on a magasiné beaucoup avec des maisons de production indépendantes, puis il n'en pleut pas au Québec. Il y avait Transistor, puis il y a Magneto. Il y en a d'autres petits à Montréal, à Québec surtout, c'est peut-être moins clean comme contenu qu'on offre, mais et c'était surprenant parce qu'on nous avait vendu ça de l'intérieur comme étant, on voulait produire que du contenu interne, on voulait pas aller à l'externe, commencer à des maisons de production et tout ça. Puis on s'aperçoit un peu de temps avant le lancement qu'on n'avait pas été capable de produire suffisamment de contenu. Et c'est comme ça que Transistor a eu un contrat avec Cube Radio, avec Québécois, avec le balado Valérie.
Synthèse. Valérie Leblanc qui roule très fort chez Cube Radio.
Et encore très fort. Puis c'est un podcast indépendant. Puis on regarde dans leur offre de contenu, c'est le seul encore à ce jour, à part celui qui est sur La Voix, qui est Production Déferlante, parce que La Voix, le branding La Voix appartient à Production Déferlante, qui était jadis Production J. Mais Transistor est le seul. Au début, il y avait également Magneto. Je viens d'aller voir. Magneto, son podcast n'est plus là, ou du moins, il n'est pas mis en vedette, mais il était là au début. Et par la suite, il y a eu toutes les productions internes qui ont commencé, et surtout la web radio qui a vraiment pris sa place, et le podcast de la web radio. Donc, c'est des émissions comprimées qu'on met en bundle de une heure et demie pour écouter donc l'émission du matin du Trisac. Au-delà de la colline, je sais pas, je pense que tu vas
Je vais en parler dans un instant, mais peut-être pour conclure juste cette introduction-là, je me demande, est-ce que tu penses que ça marche? Parce que moi, les échos de l'industrie que j'en ai, c'est Cube Radio ne dévoile pas ses chiffres. Cube Radio ne dit pas combien de téléchargements ils ont eu de chaque épisode. Donc, je me demande, dans mes proches, même parmi les gens qui trippent radio, est-ce que les gens ont vraiment l'application Cube Radio puis vont y aller, tu sais, concrètement?
Au début, Cube Radio, juste pour répondre, en deux points. Au début, les trucs de Cube Radio n'étaient pas disponibles à l'extérieur de l'écosystème TVA québécois. Donc, c'était via l'application ou sur leur site web. Et après, on a vu les podcasts être disponibles sur Google Play. Moi, je dis toujours Google Play ou Google Podcast parce que j'écoute là-dessus, mais ils sont devenus sur
toutes
Spotify
et tout ça. Avec des publicités au début,
Des publicités. Et après, également, la web radio, qui était accessible seulement sur Cube Radio, l'application, elle est venue sur TuneIn Radio. Donc, c'est une application qui recense toutes les web radios. Donc, on a un peu décloisonné l'écosystème qu'on essaie de dessiner. Donc, ça permet de démocratiser beaucoup. Donc, ça, c'est une ouverture. Moi, je pense que c'est un excellent move, un move audacieux. À court terme, je ne sais pas si on réalisait, si on voulait faire de l'argent, je pense qu'on a la chance, c'est un des derniers médias encore, une compagnie médiatique qui a la chance d'avoir la poche assez profonde au Québec pour faire rouler un produit déficitaire pendant une couple de mois, voire une couple d'années. Probablement qu'il est déficitaire. Moi, je pense que c'est plus une raison du marché québécois. T'sais, est-ce que le Cube Radio marche? Moi, je pense que c'est plus est-ce que l'industrie du podcast marche au Québec?
Mm-hmm.
Moi, je suis un peu pessimiste pour l'avoir vu de l'intérieur. Mais c'est un modèle que de plus en plus de médias sont en train de prendre, des médias qui ont d'autres plateformes, médias imprimés ou ces médias des télés. On a juste à nommer The Daily du New York Times. J'ai vu aujourd'hui qu'on est le 6 mai qu'on enregistre. J'ai vu aujourd'hui que le magazine L'Écho, plutôt le journal L'Écho en France et Le Parisien, vont dans les prochains jours sortir le podcast. Wow.
C'est parce pas qu'en aujourd'hui. France, c'est pas vraiment pas connu comme au Québec, mais je dirais on sort de l'écosystème anglophone, c'est très peu connu les podcasts. Moi, pour mon expérience avec mon podcast que j'ai fait en Espagne, j'interviewais des gens, puis ils savaient même pas c'était quoi un podcast. Et ça part de loin, là, mais c'est pas la petite histoire.
Fait aux États-Unis, c'est un modèle qui marche beaucoup, qui est en train de sauver les médias traditionnels. Il y a des médias également qui sont en train de se créer. The Verge, qui a un daily, un podcast quotidien.
Mm-hmm.
Il les a tous, le New York Times. Puis après, aussi, ça se décline en sujet. Moi, j'aime beaucoup la technologie. J'écoute un podcast sur les nouvelles technologiques jour le jour. Fait que moi, je pense que de plus en plus, c'est vers là qu'on s'en va. Je sais pas à quel point que...
Sinon, t'aurais pas invité à l'émission. Où est-ce que je vois
ça? Non, mais c'est pour dire, le marché est encore en développement. Il n'y a pas de plan d'affaires vraiment. C'est all out, le monde. Ils peuvent soit mettre de la promo dans leur podcast ou carrément demander de l'argent, se faire financer. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de plan. Puis t'as raison, c'est comment tu fais de l'argent avec les podcasts. À part si par convergence, tu finis par le pitcher avec un projet que t'as à TV. Puis tu fais, tu sais, comme qu'ils ont fait avec un peu à Télé-Québec avec le documentaire Théo Youssef, ils ont fait un podcast. C'est comme ça que ça peut fonctionner, mais en tant que tel, comment tu peux faire de l'argent? Pour un producteur, comment tu peux me convaincre que tu vas faire...
Mais justement, c'est peut-être un des modèles d'affaires de Québécois, c'est d'amener une clientèle, de rajeunir la clientèle de Québécois avec leurs produits. Donc, c'est un peu la porte d'entrée, parce que on sait que le profil...
Que les jeunes écoutent tant que ça le podcast, hein, pour profil... avoir fait des ateliers au cégep. Je sais que ça commence plus tard, là, peut-être vingtaine.
Mais quand je parle, tu sais, on s'entend les 20-30 ans, 20-35,
mm-hmm.
Ouais, plus jeunes, mais...
Pas les grands consommateurs du Journal de Montréal, autrement
dit, qui est une population qui vieillit. Moi, je pense que le modèle d'affaires, c'est peut-être justement de fidéliser une plus jeune clientèle ou d'aller chercher ces gens-là. C'est la seule radio privée, la seule média privée en ce moment qui est là-dedans. Radio-Canada font beaucoup de balados. Ils ont ralenti. Là, quand ça a débuté, ils sont partis en force. Ils ont mis plein de différents balados. Puis ils ont le même problème que plusieurs. Il faut les entretenir, ces balados-là.
Et tout comme Cube Radio, on a peu de chiffres. Hein? J'aimerais ça me baser sur
des faits. Mais c'est correct, ça me dérange pas. Ça regarde qu'eux. Moi, qu'est-ce que ça me regarde? C'est qu'est-ce que j'écoute. Si c'est du bon contenu, tant mieux. Puis je vais continuer à écouter. Mais de plus en plus, il y a de la publicité, par contre, qui commence à arriver sur les podcasts de Cube.
Hey, parlons de bon contenu, parce que justement, c'est pour ça, on t'a demandé en venant à l'émission de nous préparer un petit peu pour Cube Radio. Est-ce que t'as, mettons, ce que t'aimes le mieux puis ce que t'aimes le moins, disons? Est-ce qu'on peut dire ça de même?
Oui. En fait, moi, je vais vous présenter un petit extrait d'un balado que j'adore, que j'écoute religieusement. Je pense que c'est le seul balado que je mets dans ma routine chaque semaine. C'est le Guide de l'auto. C'est animé par Antoine Joubert et Germain Goyer. Je vous laisse l'écouter.
Mais c'est probablement la seule voiture qui est une authentique Volkswagen qui va continuer à être vendue aux États-Unis. Alors, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, regarde les chiffres de vente chez Volkswagen. Le Tiguan est rendu le meilleur vendeur en avant de la Jetta. En avant de la Golf, évidemment. L'Atlas se vend super bien. Fait qu'on élimine la Beetle, on élimine tout ce qui se vend plus, le bois mort, puis on fait de Volkswagen une compagnie américaine.
Es-tu fan de voitures?
Je ne
connaissais pas Gotchard.
Ouais, c'est une bonne question. Oui et non. Mais moi, je suis passionné par les gars passionnés. T'écoutes ces deux gars-là.
Ouais. C'est vrai.
Puis
J'ai goût d'en savoir plus, moi, puis j'ai aucun intérêt pour les chars.
Voilà. Fait que ça me permet de m'éduquer sur quelque chose que je connais pas. Puis à chaque semaine, je le vois arriver, puis je suis comme, on va m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Puis je trouve que c'est le bon exemple de c'est quoi un podcast. Faut que ça soit de niche. En tout cas, mon genre de podcast, faut que ça soit un média de niche. On parle d'auto, on va jusqu'au bout d'auto. C'est pas un talk show. Moi, j'écoute pas un podcast pour écouter un talk show, puis écouter les meilleurs, un tel artiste avec un tel architecte et un tel politicien.
Mm-hmm.
Moi, je suis pas comme ça. J'aime bien, si je veux écouter un podcast de voiture ou un podcast d'art, je veux écouter un podcast d'art, je veux pas écouter. Donc, je trouve que c'est exactement, il y a des normes qu'on peut pas. On peut pas parler comme on veut à la télé traditionnelle puis dans les journaux traditionnels, dans un journal, dans une média écrit. Puis je trouve que Germain Goyer représente très bien qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on n'hésite pas d'utiliser des anglicismes dans un milieu qui se porte aux anglicismes, l'industrie de l'auto, je veux dire.
Un wiper,
on utilise, même si on fait attention, mais on utilise quand même des anglicismes puis ça se porte super bien. Donc c'est une émission qui dure à chaque semaine une heure. C'est ça le problème, c'est qu'on le fait pour aussi que ça soit diffusé sur la web radio de Cube. Et ça a un principe aussi où le guide de l'auto, on se déplace énormément. On va dans des salons, on va rencontrer les gens qui sont passionnés sur place pour faire des entrevues. Justement, cet extrait-là a été tiré d'un épisode qui a été enregistré au Salon d'auto Sport de Québec. Et dans l'épisode, on a une entrevue justement avec Michel Barrette, qui d'autre? Pour parler de son amour pour les voitures. Donc, je trouve que ça explique très bien. Puis, on le nourrit suffisamment à chaque semaine.
Tu es rendu un spécialiste de l'auto, autrement dit. À force d'écouter ça chaque semaine, Volkswagen ne peut avoir de secret pour toi, là.
Oui et non, là, je pense à ma mère qui va écouter ça. Ma mère qui est ingénieure mécanique, qui connaît beaucoup plus ses autos. Je peux pas dire que je suis un expert, mais ça me permet de tenir au moins le minimum informé.
Mais c'est intéressant ce que tu dis à propos des podcasts nichés, parce que c'est vrai que c'est ça qui fonctionne aussi. On écoute des podcasts justement pour en apprendre plus sur un truc en spécifique. C'est ça un peu le dilemme avec le marché de la balado, c'est que comment tu peux dire à quelqu'un que ton podcast va être populaire si ce qui marche, c'est ce qui est niché?
Mm-hmm.
Ça attire moins de gens, évidemment, parce que t'es très niché. Mais comment tu peux le vendre après ça, ton podcast, puis dire hey, « Écoute, monsieur le producteur, tu vas faire du cash en prenant mon idée, tu sais? »
Mais en même temps, ça permet... Il n'y a pas de régie publicitaire pour les podcasts. Il y en a une aux États-Unis, au Québec, il n'y a pas.
Les podcasts aux États-Unis?
Oui, il y en a une pour les États-Unis. Puis le problème.
Autrement dit, la publicité native, là, c'est-à-dire. Ouais, mais... Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais inclure sa publicité dans le contenu.
En fait, le problème, ça c'est un autre débat, c'est que le problème, la seule data que tu peux avoir de ton utilisateur, c'est l'endroit où il a téléchargé, où il a pesé sur Play, donc le IP address. Pour savoir si c'était au Canada, au Québec ou peu importe.
Okay.
Mais on ne peut pas savoir après c'est quoi ses intérêts comme Facebook ou Google qui mes intérêts c'est par rapport à qu'est-ce que je clique ou qu'est-ce que. Donc ça nous permet de vraiment faire de la publicité pour un auditoire cible. Donc quand j'écoute le guide de l'auto, j'ai une publicité d'un concessionnaire automobile à Montréal.
Ouais, OK.
Tandis que de plus en plus aux États-Unis, je suis pas vraiment le client cible, mais si j'écoute NPR, on sait que la majorité de leur audience est aux États-Unis, peut-être dans telle région, je parle au travers de mon chapeau, dans telle région, donc ça va être une publicité pour une LinkedIn, c'est un podcast sur le monde des affaires, LinkedIn pour un produit ou une conférence qui va avoir lieu à San Diego, parce que j'imagine la majorité du monde de profil. Donc, de plus en plus, c'est vers là qu'on s'en va. Donc,
faudrait faire un épisode complet sur la publicité. Ah,
je
vais
vous en parler parce qu'il y a un autre gros développement. Il y a une nouvelle plateforme, un nouveau player qui vient de lancer, qui va voir le jour dans les prochains jours. Puis il a réussi à lever en capital de risque plus de 10 millions de dollars. Puis qu'est-ce qu'il promet, c'est de gérer tout le problème des publicités, qui est un gros problème dans le podcast.
Ali, on écoute quelque chose? C'est quelque chose que t'aimes moins.
Ouais, bien, ça explique un peu, en gros, qu'est-ce que j'aime moins de Cube.
Bienvenue à ce premier épisode de 2019 du Bon Plan, le balado sur le cannabis de Cube Radio.
Oh, Cube Radio. Ouais, balado sur le cannabis, c'est ça? Ça, t'aimes pas ça?
Ben, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que... Non, c'est pas tout le temps le sujet. C'est que c'est le dernier épisode du podcast qui s'appelle Le Bon Plan. Il date du 7 février 2019. C'est le premier épisode de 2019. On est encore dans la première année de la légalisation du cannabis. je veux dire, je comprends pas comment la fréquence est si...
Donc, au moment d'enregistrer, ça fait 2-3 mois qu'il y a rien. Comment ça se fait?
Ben, puis je veux dire, le podcast a vu le jour en octobre 2018. Il y a eu 5-6 épisodes, ils sont vraiment espacés. Il n'y a pas de logique dans la parution. C'est correct si tu fais une série... Dans mon livre à moi, c'est correct si tu fais une série et tu te dis que tu vas avoir 10 épisodes ou tu fais... ou quand tu as un bon roulement, tu te dis « je repasse un épisode une telle journée ». Mais je ne comprends pas comment il alimente si peu les podcasts de Cube Radio. Il y a plein d'exemples qui l'expliquent. Il y avait le Centre d'observation de la mimique, je veux dire, qui était... Mythique, qui était un podcast sur les mimes, l'industrie du mime au Québec, qui est super fort, mais qui a vraiment ralenti au fil des temps.
On dirait qu'ils perdent l'intérêt, autrement dit. Il faut que tu aies une certaine fréquence. Il faut que tu sois à chaque semaine pour que tes fans puissent continuer à te suivre. Sinon,
mais surtout,
tes fans t'oublient.
C'est ça qui fait la différence entre un podcast amateur ou un podcast d'une entreprise établie comme Québécois ou comme NPR ou comme Gimlet.
As-tu remarqué, ça c'est un tangentiel complètement ce que je veux dire, mais même NPR, même This American Life, des fois ils font des repackaging de vieux épisodes parce que justement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la production nécessaire pour faire un épisode chaque semaine, mais en repackageant, ils offrent à leurs abonnés quelque chose de nouveau chaque semaine. Donc,
moi ça me dérange pas parce que, genre, au pire je vais le sauter, ou au pire si je l'ai mal écouté, ou ça fait longtemps, je m'en souviens pas, je vais le réécouter. En venant ici enregistrer, j'écoutais Ted Hour Talk, qui c'est un truc de 2016, on me l'explique au début. Mais ça peut arriver aussi qu'on te le dit dans 2 semaines, comme Startup de Gimlet Media nous le disait, « Hey, on prend une pause 1 mois, on vous revient telle date avec une nouvelle série. » Moi, ça me va, ça me dérange pas, mais commence pas à diluer un peu en ne disant pas. Puis j'ai donné cet exemple-là parce que ça parle par lui-même. Je trouve que c'est tellement d'actualité le cannabis avec la légalisation. Puis on n'est pas capable de l'entretenir, ce fil-là de podcast, mais il y a plein d'autres exemples sur Cube. Là. Je pourrais vous en parler pendant un petit bout.
Hey, moi, je vais te parler d'un podcast qui, lui, ne prend jamais de pause et qui est, pour de vrai, je pense, d'une bonne fréquence.
Cube Radio.
Il connaît tous les dessous de la politique.
L'économie, la santé, le transport.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
Bon, ben, je vous souhaite un excellent lundi. Je suis en direct.
Eh oui, c'était l'épisode de lundi de Là-haut sur la colline avec Antoine Robitaille et cet excellent jingle. Est-ce que tu écoutes l'émission, Olivier?
J'ai écouté l'émission au tout début. Mais pour être honnête, j'ai arrêté de l'écouter pour exactement la raison du jingle.
J'y reviendrai dans un instant. Mais pourtant, tu es un passionné de politique.
Ouais. J'ai beaucoup d'estime pour Antoine Robitaille également.
Oui, qu'on aime beaucoup. Moi aussi, évidemment, je suis la politique assidûment. Je pense que je suis, disons, le numéro un client cible de ce podcast-là. Pour le faire un petit résumé, c'est tout simplement un show de chroniqueurs où il y a Antoine Robitaille, le chef de parlementaire là, à Québec du bureau d'enquête du Journal de Montréal, qui reçoit ses journalistes parlementaires et il parle de politique québécoise, mais c'est vraiment inside baseball, là. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, telle affaire s'est passée, Gaétan Barrette a dit ça, puis les gens, ça les a pas plu. Puis on est vraiment dans les petits détails de la politique qui sont expliqués, souvent avec humour, comme par exemple à chaque chroniqueur qui passe, il y a un petit jingle, comme quand Geneviève Lajoie du Journal de Québec, il passe « Il y a de la joie », puis là, est introduite comme ça, avec une petite chanson. C'est drôle que tu aies mentionné le jingle parce que moi, c'est ça qui m'a marqué de Cube Radio en premier lieu. C'est que je trouve qu'ils ont un petit peu repris tous les faux plis / les stéréotypes de la radio privée et les ont mis en podcast. Donc, on a, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, l'espèce de guitare avec une voix FM qui dit « Il connaît tous les dessous de la politique ». Non, je devrais refaire « Il connaît tous les dessous de la politique ». Mais, puis là, après ça, il nomme économie, transport, je sais pas trop, comme s'il y avait juste ces trois sujets-là en politique, là. C'est quoi cette affaire-là? C'est une vision, je trouve, déjà étroite. Puis, ça m'énerve. Moi, je me dis, tu as mentionné ça en tout début d'épisode et j'ai trouvé ça très pertinent. Est-ce que c'est de la radio live ou est-ce que c'est du podcast? Moi, jamais j'écouterais ça en live pour des raisons pratico-pratiques. Je travaille, puis bon, je l'écoute parce que j'aime le contenu, mais en différé, et je me dis, tant qu'à ça, là, j'ai aucune idée de leurs chiffres. J'ai aucune idée combien de gens les écoutent en direct. Mais pourquoi ne pas s'affranchir du direct et de tout ce que les aléas que ça peut avoir d'être en direct pour se concentrer de faire un contenu de qualité en rediffusion, incluant des extraits longs, des enquêtes plus approfondies, vraiment y aller comme à fond, puis pour que les fans de politique suivent ça d'une manière, j'aurais envie de dire, plus érudit un petit peu. Mais pourtant, je trouve qu'Antoine Robitaille a tout ce qu'il faut en termes de contenu pour le dire, mais on dirait qu'il colle à un espèce de stéréotype d'animateur de radio privée. Je sais pas ce que t'en penses.
Totalement d'accord. Je sais pas si toi, François...
Non, je l'ai pas écouté encore.
J'ai pensé, quand avant l'émission, avant qu'on enregistre, tu nous as dit que tu allais parler de l'émission d'Antoine Robitaille, et j'ai pensé à François tout de suite, parce que François est un super bon, probablement le meilleur technicien ou arrangeur, ingénieur de son.
Qu'on n'a jamais rencontré, mais ça c'est vrai. Alors, je me le fais dire souvent, d'ailleurs.
Je comprends pas encore à ce jour, tu as repassé un peu de l'extrait, mais c'est pas suffisant pour l'entendre, là, mais c'est tellement de l'écho, comprends pas la prise de son.
Ils sont à l'Assemblée nationale du Québec dans leur bureau de Cube Radio là-bas, donc j'imagine que c'est même pas leur studio A, là, on s'entend là. C'est,
oui, mais comme tu peux t'arranger aujourd'hui pour choisir un autre micro, remodifie comment tu places ton bureau, je ne comprends pas. Mm-hmm. Puis au début, là, c'était bizarre, là, j'y arrivais juste pas. C'est comme si on avait fait, il y a un trou dans l'horaire à 13 jusqu'à 14 heures. On a quelqu'un qui se connaît en politique, c'est dans le prime de la politique, on va le mettre. Je trouvais ça injuste pour Antoine Robitaille. Je trouvais ça vraiment pas fair de ça.
Il a de l'air d'avoir du fun, cela dit.
Oui, parce qu'il est excellent, pas juste avec sa plume, mais aussi dans ses expressions. Il adore la langue française. Mais je sais pas, on dirait que c'est pas juste parce que j'ai même pas. T'as dit que. C'est près beaucoup d'inside baseball, puis je l'ai même pas réalisé, puis je l'aurais dû réaliser parce que c'est le genre de choses que je dis régulièrement. Mais je m'accrochais sur les jingles, puis je m'accrochais sur les trucs techniques. Ouais. Fait que j'ai de la misère. Tu sais, c'est sûr que François serait juste.
Pour l'avoir écouté, pour l'avoir pas écouté, justement, est-ce que vous me le conseillez quand même ou ça vaut même pas la peine que j'en écoute un?
Je te dirais, regarde les sujets. Mettons qu'il y a quelque chose de politique québécoise, un sujet qui t'appelle tout particulièrement ou que tu as envie d'approfondir, oui, ça vaut la peine. Parce que il va jaser avec les journalistes qui couvrent ça au quotidien puis qui vont pouvoir te dire, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça sert à ça.
J'ai jamais entendu encore à ce jour d'autres médias rapporter quelque chose qui a été dit dans le show d'Antoine Robitaille.
Tu veux dire les citations?
Les citations.
C'est sorti à Cube Radio.
Ouais, pas à Cube Radio. Je le vois, j'en l'entends souvent pour l'émission de Dutrisac le matin, genre un tel...
Ah, Paul Arcand.
Ou Paul Arcand, c'est un bon exemple. T'sais, ça donne le ton à la joute politique. C'est un rendez-vous immanquable. J'ai jamais entendu personne me refuser, parce que dans ma vie de tous les jours, je boucle des politiciens, me refuser une entrevue parce qu'il est chez Antoine Robitaille ou t'es en train d'enregistrer quelque chose ou il va faire une conversation.
Ouais.
Et j'ai jamais entendu non plus un autre média ou même le Journal de Montréal citer tel que dit chez Antoine Robitaille. Je sais pas. Donc, je sais pas si c'est un inévitable dans ce sens-là. Je pense, comme tu dis, je pense peut-être écouter par toutes les staffers politiques sur la colline à Québec.
Toujours drôle.
C'est encore drôle, je sais pas, j'ai jamais entendu un staffer, puis j'en connais beaucoup, j'en parle à des dizaines par semaine, et j'ai jamais entendu un staffer m'en parler. Mais travailler sur la colline, je pense, j'écouterais ça peut-être. Il y a beaucoup de petits potins.
Et travailler dans le milieu du crime, François, j'écouterais le podcast que tu vas nous suggérer.
Ben oui, je vais revenir sur ce que je disais la semaine passée au sujet de Narcos PQ. En fait, je vous remets dans le contexte, c'est un balado de Cube Radio, évidemment, qui nous plonge dans le monde de la drogue au Québec. On nous propose des entrevues exclusives avec des vrais narcotrafiquants, des petits, des gros acteurs du milieu, qui jasent de ce qu'ils ont fait ou même ce qu'ils font toujours. Puis ça, c'est animé par les journalistes Brigitte Noël et Félix Séguin.
Faut dire, Narcos, c'est comme la série Narcos, là.
Ouais.
québécois. Mettons. C'est, mais non, mais c'est pris de là. Non?
Mettons, c'est pris de là. Oui, c'est exactement. Brigitte Noël, elle, c'est elle qui est enregistreuse à la main, va à la rencontre des gens de ce milieu-là, puis qui essaie d'en savoir un peu plus long sur comment ça se passe dans le milieu du trafic du stupéfiant. Puis ensuite, elle retourne voir Félix Séguin pour en rejaser avec lui de ce qu'elle a récolté comme témoignage. Bon, la semaine passée, je disais que j'étais toujours pas convaincu de quelque chose, puis je veux avoir ton avis, Olivier, là-dessus. En fait, on laisse des gens, justement, de ce milieu-là, nous conter leur anecdote, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, les choses qu'ils ont dû faire pour se faire accepter. On leur donne une certaine latitude aussi pour qu'ils se justifient, puis qu'ils fassent un peu valoir leur point. Puis pour vrai, ça va, par exemple, un gars nous explique que dans le premier épisode, avoir embarqué dans ce monde-là pour le fric, qu'il n'a jamais voulu faire de mal à personne.
Un bon gars.
Ben, tu sais, c'est ça. Tu peux juger par toi-même, puis c'est ça mon point. Tout de suite après le témoignage, on nous donne un point de vue sur la situation, puis dans le fond, on nous suggère un peu comment on devrait interpréter / voir les choses, puis ça, c'est peut-être le truc que j'aime moins. Le bien, le mal, c'est pas nécessaire, je trouve, de tracer la ligne, justement. Mais
les journalistes vont dire « Ah, ça, c'est pas correct, ça, c'est trop de cul, ça, t'es un bon gars. »
Ouais, ils vont un peu nous donner ce que leur valeur à eux, puis ça, c'est comme... on dirait qu'on gagnerait à laisser un peu plus l'auditeur se faire sa propre idée tout seul. Puis j'ai le goût de faire écouter un extrait, justement, pour que vous compreniez mieux.
C'est officiel que quand j'ai vu des gens à qui il manquait des dents faire des crises de panique parce qu'ils sont en manque de drogue, vomir, pas dormir pendant des jours, c'est sûr que ça m'a frappé, puis peut-être une conscience sociale. Tu sais, je suis dans un barbecue, puis je vois les enfants de mes amis. Là, je me dis que si un jour ces gens-là deviennent toxicomanes, ben, c'est peut-être moi, indirectement, qui va avoir un rapport là-dedans, va contribuer à ça. Et ça, ben, ça m'a beaucoup fait réfléchir.
Fait que dans le fond, ce que nous dit le narcotrafiquant, qui est en fait un acteur qui résume un peu les propos du vrai gars, parce qu'évidemment, on veut masquer son identité. Ce qu'il nous dit, ce gars-là, c'est que, dans le fond...
Il regrette.
Il a comme réalisé ce qu'il faisait, puis qu'est-ce qu'il faisait, et c'était mal. Fait que là, en fait, on revient en studio avec Brigitte Noël et Félix Séguin. Puis, dans le fond, ils décortiquent un peu son témoignage, puis ils nous donnent justement leur opinion. Puis je vous fais écouter le prochain extrait.
Moi, cet extrait-là, il me fait flipper parce que ça vient rejoindre moi, tout ce que j'entends quand je rencontre des trafiquants. Eux autres, ils ont un système de valeurs à eux autres. Tu sais, il dit, ben, tu sais, je me suis rendu compte des dommages que ça faisait, mais tu sais, en même temps, il axe beaucoup sur le fait que c'est pas bon la drogue quand t'en consommes trop.
La modération.
Mais je veux dire, tu sais, tu vends des drogues de synthèse, puis ce qu'ils vendent, c'est fort, puis ça crée une accoutumance. Comme ça. C'est quoi que tu comprends pas, là?
Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a comme une petite... je sais pas, une contradiction. Puis, je peux certainement me tromper, mais j'ai comme l'impression qu'il tente de balancer le propos, peut-être d'un sens pour pas que le podcast a l'air de glorifier l'industrie non plus, puis d'apporter une vision de ce qui s'est dit pour montrer l'envers de la médaille. Mais je veux avoir ton opinion, Olivier. Je trouve ça... Je comprends ce qu'ils font, mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
C'est drôle, quand même, parce que je vais vous expliquer. Je pensais pas que ça avait ce format-là. Moi, je voulais l'écouter, puis quand on m'a demandé de venir participer à l'enregistrement, j'ai dit « Ah, je vais l'écouter en fin de semaine parce que je savais que tu voulais présenter tout ça. » Et c'est pas qu'est-ce que Félix Séguin m'a vendu. Moi, j'ai parlé avec Félix Séguin l'été passé, en 2018.
Il m'avait teasé.
Je savais déjà que ça allait s'appeler Narco PQ, que ça allait être avec Brigitte Noël, mais il m'avait présenté comme... Il allait relater, il avait fait un gros travail de recherche, d'enquête pour les 100 plus gros crimes au Québec. Puis on allait nous présenter ça au fil des épisodes. On savait pas si on allait regrouper certains qui se ressemblent ensemble ou plus les expliquer sous forme de récit. Donc, en même temps, ça arrive bien que j'ai pas eu la chance d'écouter en fin de semaine parce que je suis un peu étonné, parce que c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Mais je pense que les gens aiment ça parce que je l'entends parler beaucoup. C'est la première fois que quelqu'un m'explique, ou du moins j'écoute des extraits, donc je comprends mieux le format. Mais je trouve ça quand même drôle.
Moi, j'ai écouté un épisode en live au Festival Transistor. Ouais. La gang de Narcos PQ, Félix Séguin et Brigitte Noël étaient là et ils ont interviewé un ex-détenu trafiquant de drogue, oui, qui a été CTA par la GRC en Thaïlande. Okay? C'est un gars qui est allé en Thaïlande, envoyé par la GRC pour pogner un trafiquant.
C'est le gars de Gatineau à Cantley, genre quelque chose comme ça?
Peut-être. En tout cas, ça a été une grosse histoire une certaine année. Je pourrais pas vraiment te dire les détails parce que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai écouté. Moi, je trouve que 100% de l'épisode se rebase sur son témoignage et j'ai On dirait que, bon, mettons que je le crois que les grandes lignes sont vraies, il était là puis il le racontait.
Ouais.
Mais des fois, mettons, il disait des petits détails. Il disait, oh, moi, à l'époque, je pesais 90 livres puis je fumais un livre de pot par jour. Puis là, c'est des petits détails qui me faisaient faire un petit calcul en me disant, ben, en tout cas, il me semble que j'ai déjà fumé du pot, ouais. C'est juste pas possible, là, mais ouais, tu comprends ce que je veux dire?
Non, mais ils disent aussi...
Ça se peut-tu qu'ils exagèrent?
Non, mais ils disent aussi dans le podcast, par contre, là, en prémisse, ils disent, ce que vous allez entendre, c'est des gens qui viennent de ce milieu-là, puis il faut que t'en prennes puis que t'en laisses. Mm. Tu sais, fait que oui, OK, je comprends dans le fond.
Ce format-là, de faire refaire le récit avec l'intervenant, c'est peut-être mieux, dans mon sens à moi, ouais. qu'analyser... après coup, je trouve que ça va mieux. Moi, ça me dérange pas. Je sais pas, on dirait que c'est no matter what, je veux dire, même si les journalistes essayent de faire la part des choses, c'est ce genre de contenu-là qu'ils réussiront jamais. Je veux dire, je pense que personne est outillé pour voir fact-checker les faits. Donc, si on le fait raconter à quelqu'un, dans mon livre à moi, c'est peut-être plus acceptable que si c'est le journaliste qui vient arriver avec des faits béton, même si c'est au conditionnel, c'est comme ça s'était passé. Je sais pas. Mais je sais que je suis sûr qu'il y a une clientèle pour ça, parce que tout le monde veut savoir le dessous, le monde interlope, comment ça se passe, pis tout ce truc-là.
Ben, t'es un ancien de la boîte. Tu connais Félix Seguin, moi aussi. Brigitte Noël, je la connais. C'est mes amis Facebook, puis je les ai vus, par exemple, cette semaine, raconter à quel point Narcos PQ scorait fort sur iTunes. C'était, je pense, le seul podcast en français dans le top
50 de Apple Podcasts.
Le seul en français dans le top 50, puis eux étaient dans le top 20, en tout cas. Ça va peut-être sembler être méchant ce que je vais dire, mais il y a eu la pensée qui m'a traversé l'esprit de est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui, en voyant le titre, ne savaient pas que c'était en français? Parce que Narcos, tu vois ça en podcast, tu t'abonnes, tu sais, je veux dire, pas ça.
Ben, ça se peut, mais moi, je veux quand même leur donner le crédit parce que, somme toute, là, ça c'était mon seul bémol, parce qu'une fois que t'écoutes un épisode, t'es écoutes toutes sans niaiser. C'est vraiment, ils ont vraiment le don de rendre leur contenu intéressant. Puis je crois que le montage puis la réalisation, il est pour beaucoup, là. Je dois nommer Anne-Sophie Carpentier puis Bastien Gagnon La France, qui ont fait un sacré bon boulot. Puis je dois aussi noter le travail des journalistes qui est vraiment excellent aussi, là. C'est sûr que ça, c'est mon questionnement, mais somme toute, ils font de la bonne job. Puis j'ai écouté le dernier épisode sur Vito Risotto.
Moi, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, il faut que je l'écoute.
Puis sans niaiser, Félix Séguin, Shine. Tu vois qu'il en connaît là-dessus, puis c'est vraiment intéressant. J'en ai appris beaucoup, fait que c'est ça. J'attends avec impatience le prochain épisode.
Mais je pense que c'est vraiment le meilleur exemple. C'est vraiment des... Tu le sens là, dans la voix. Tantôt, dans l'extrait, là, on était dans un café, le son était clair.
Ouais.
Moi, c'est sûr que je l'écoute.
Conclut l'épisode 4 du Petit Guide du podcast.
Je pense qu'on en a réglé bien les affaires.
Je pense que Cube Radio est officiellement analysé.
Exact.
merci beaucoup, Olivier Charbonneau, d'avoir été notre invité, premier invité de l'histoire du Petit Guide. Merci François, encore une fois. C'était un super épisode. Puis on se souhaite à la prochaine. Bonne écoute.
À bientôt.